Le 24 septembre dernier, le Cinémovida d'Arras, en partenariat avec l'agence Vitalliance, groupe leader dans l'accompagnement des personnes âgées et handicapées, ont organisé un ciné-débat autour du handicap avec la projection du film De toutes nos forces de Niels Tavernier. Ce film retrace l'histoire d'une famille fracturée dans son quotidien par la présence d'un fils handicapé moteur de naissance. Celui-ci découvre que son père est un ancien athlète et décide de lui proposer de courir ensemble l'Ironman de Nice, l'un des triathlons les plus difficiles qui est une course multidisciplinaire consistant à enchaîner 3,8 km de natation, environ 180 km de cyclisme, puis un marathon d'une quarantaine de kilomètres. Chaque épreuve doit être réalisée en un temps déterminé afin d'être qualifié pour la suivante et la totalité de la course doit être effectuée en moins de 16 heures pour que l'épreuve soit validée. Le défi est relevé par le père et le fils, resserrant ainsi les liens qu'ils avaient peu à peu perdus. Avant de retrouver Caroline Lee, la responsable de l'agence Vitalliance d'Arras, entretien avec Kevin, Thibaut et Florian, étudiants spécialisés, que j'ai rencontrés juste après la projection. Vous êtes étudiant, vous pouvez m'expliquer un peu où exactement ?
Alors nous sommes étudiants en master prévention rééducation santé à la faculté de Liévin. C'est un master donc d'activité physique. En fait, on essaye de promouvoir l'activité physique adaptée, donc pour tout type de personnes, qu'elles soient dépendantes ou handicapées. Donc dans le handicap, il y a tout ce qui est moteur, mental, et on essaye vraiment de promouvoir tous ces types d'activités, toutes ces pratiques, et montrer aux gens qu'en fait c'est possible de pratiquer malgré les handicaps.
D'accord, donc là on parle de sport. Hein.
On parle de sport.
Ciné-débat donc avec ce film De toutes nos forces, vous l'aviez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé ?
C'est un très beau film, il est émouvant, très émouvant même. Et on a une belle approche du handicap pour toutes les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, entre guillemets, et ça permet de casser beaucoup d'a priori.
J'avais pas encore vu le film, je voulais le voir justement au cinéma, mais j'avais pas eu l'occasion de le voir, donc c'était justement ce soir c'était l'occasion. Et donc ce film, c'est vraiment un très beau film, voir la situation du handicap et la force aussi de la personne valide et de la personne handicapée qui veut aller au bout de son rêve et donc dépasser ses limites. Et on peut voir ainsi qu'il y a une union des deux sujets et que le sport a relié ces deux personnes, car on voit au début qu'il y avait une fracture de ces deux sujets. Et donc le sport permet... une cohésion entre deux personnes.
Oui, comme dit Thibaut, le sport casse la barrière du handicap, entre guillemets, et permet à la personne handicapée de réaliser ses rêves.
Il faut dire aussi que c'est un peu exceptionnel. Hein. Est-ce que dans la vraie vie, ce genre de choses pourrait arriver ? C'est quand même l'Ironman qui est une sorte de triathlon assez dur. Il passe un peu outre les autorisations. Est-ce que vous êtes un peu confronté justement à ce genre de choses en étant étudiant ? Est-ce que d'abord vous êtes sur le terrain aussi ?
Oui, on est sur le terrain, on a des stages. Et effectivement, on a des demandes, c'est surtout pas autant qu'un Ironman par exemple, mais on a des demandes qui sortent du commun des mortels, entre guillemets. Donc c'est sûr que parfois, c'est difficile de dire non, quoi. Parce que la personne a vraiment, vraiment envie, mais c'est impossible du point de vue médical déjà. On prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Et c'est un peu le frein, en fait.
Après aussi, pour prendre un exemple, par exemple, Philippe Croison qui avait traversé la Manche, et donc qui était amputé des quatre membres. Et on voit aussi que la ténacité, donc je pense que si une personne handicapée a envie de faire quelque chose, il va tout faire pour mettre en œuvre, pour faire son rêve.
Tout à l'heure, on évoquait dans le public une sorte de championnat de France hein, qui existe déjà. On peut parler aussi des Jeux paralympiques qui commencent un peu à s'ouvrir. Et on s'aperçoit quand même que finalement, on sent quand même qu'il y a une barrière entre le public sportif qui n'est pas vraiment handicapé. Et du coup, il n'y a peut-être pas une ouverture assez grande justement sur ces notions de sport et de handicap. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
C'est vrai qu'il y a entre guillemets une fracture entre les personnes valides et handivalides. Entre guillemets, les personnes valides, c'est pour eux en fait, ils font du sport pour eux. Tandis que les personnes handicapées, ils veulent s'ouvrir aux autres. Donc le sport propose ça aussi comme objectif, de s'ouvrir aux autres. Et ils voudraient que la fracture entre les personnes handivalides et valides se réduisent, mais souvent je pense que les personnes valides ont peur des personnes handicapées en fait.
Il y a beaucoup d'a priori en fait entre les personnes valides et les personnes dites handicapées, et en fait c'est ça le plus gros frein, parce que c'est pas parce qu'une personne a un handicap que forcément elle n'est pas capable de faire quelque chose, c'est justement tout le contraire, parce qu'elle a de la détermination, elle a avoir de l'envie, et puis pour eux en fait réussir quelque chose c'est vraiment très très important. même une petite chose peut être très importante pour eux. Par exemple, rien que réussir à se relever, c'est quelque chose d'incroyable pour eux. Réussir à marcher, même si c'est tenu, pour eux, c'est extraordinaire. Alors que pour nous, c'est quelque chose de naturel.
Donc après, comme je pensais, le handisport est en plein développement en ce moment. Donc la barrière qui sépare le monde valide et le monde non-valide va au fil du temps s'amoindrir en fait.
Bon, on a l'impression qu'on vous entend d'ailleurs que ben, les vrais sportifs, hein, pour le vrai sport, c'est plutôt ces personnes handicapées qui, eux, il n'y a pas de compétition en fait.
Il y a des compétitions, bien moins développées, toujours par un souci d'argent au niveau du matériel en fait. C'est surtout ça le gros problème, c'est que le matériel est très difficilement accessible. Il coûte très cher, parce qu'au final, avec un peu de... Si on se creuse les ménages, en fait, on réussit à faire pratiquement tous les sports. On adapte juste les règles, on adapte le matériel, et puis tous les sports sont possibles. Bien sûr, dans la limite du raisonnable.
Si on prend l'aspect psychologique, vous, comment vous le vivez? Est-ce que vous êtes formé aussi à ça? Est-ce qu'il faut être armé quand on est face à certains handicaps qui sont lourds?
On a une formation, on va dire, en cours, oui. Mais la meilleure formation, c'est toujours sur le terrain. Et tant qu'on n'a pas vécu des situations, au final, on le sait, entre guillemets, qu'est-ce qui peut passer, mais on ne sait pas vraiment comment réagir. Et la meilleure des formations, c'est sur le terrain.
Quand on est en face d'une personne un peu donc handicap, il faut ne pas la rejeter et donc la prendre, entre guillemets, dans ses bras pour tout faire pour l'aider à réaliser ce qu'elle veut et se sentir mieux dans sa peau et oublier son handicap.
Mais psychologiquement, vous le vivez plutôt bien. Il n'y a pas des moments où c'est un peu lourd. Comment vous faites pour survoler ça?
Il y a des moments, c'est sûr, c'est dur. On se remet en question. On se dit comment on va faire pour réussir telle chose. Et c'est vrai que parfois, on se dit, mince, en fait, je ne sais rien faire, quoi, j'y arrive pas. Alors qu'en fait, il suffit juste de s'ouvrir, de discuter avec la personne. Et ce n'est pas en cherchant tout seul qu'on va réussir quelque chose, c'est en demandant aux autres professionnels et en allant discuter avec la personne, en fait. Et on va trouver des moyens, et puis après, tout se passe bien.
On essaie d'oublier, entre guillemets, le handicap par le sport. Donc, on pratique un sport, on s'amuse avec la personne, on fait du jeu, et là, voilà, le handicap est oublié.
Il était tellement content d'avoir un garçon. Puis quand il a vu les autres bébés marcher et pas le sien, il a commencé à s'enfermer. Il a arrêté la compétition. En fait, ça fait des années qu'il s'éloigne de lui. Il a besoin d'un père, tu comprends ça? Moi, je l'occupe tous les jours, depuis 17 ans, matin, midi et soir. T'es où, toi?
3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km à pied.
Ça, c'est une course de dingue, hein.
Je vais faire l'Ironman avec toi.
C'est quoi cette idée? Ça va pas, non?
Je suis sûr qu'on peut y arriver!
Oublie ça, c'est non!
J'en suis pas capable. Tu t'enlèves ça de la tête. On trouvera bien autre chose à faire.
Non, je veux rien perdre.
T'abandonnes pas, toi.
En permanence. Pas une seconde d'inattention, sinon c'est le gadin.
Va falloir arrêter cette course. C'est trop dangereux.
C'est pas grave si on finit pas.
Si, c'est grave. Moi, je vais aller au bout avec toi.
On retrouve à présent Caroline Lirota, responsable de l'agence d'Arras. Elle nous explique entre autres le choix de ce film, mais surtout le travail effectué par Vitalliance.
Vitalliance est un service d'aide à domicile existant depuis 2003 et présent sur la région depuis 2010. L'agence de Lille intervient depuis 5 ans pour le département du Nord et donc moi depuis un an et demi pour le département du Pas-de-Calais. Donc l'agence se situe à Arras, mais on intervient sur tout le département du Pas-de-Calais. On intervient auprès de personnes en situation de dépendance, que ce soit des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, enfants ou adultes, pas d'âge minimum pour intervenir. Donc nos interventions, c'est au quotidien, autant pour une aide au lever, à la toilette, pour les actes essentiels vraiment de la vie quotidienne, mais également pour tout ce qui est accompagnement sur l'extérieur, donc accompagnement autant à des rendez-vous médicaux, à des activités de loisirs sur l'extérieur. Et la grande différence de Vitalliance, effectivement, c'est que la personne choisit son planning. Donc au départ, il est vraiment défini par la personne. Et la personne choisit son intervenante. Donc on présente plusieurs intervenantes et le contact se fait ou pas. Donc il y a toujours une présentation. Et de cette présentation, on met en place le planning qui a été convenu lors de la première visite à domicile.
Cette soirée ciné-débat avec le film de Nils Tavernier, de Toutes nos forces. D'abord, pourquoi justement le choix de ce film? Est-ce qu'il n'y en avait pas d'autres? Pourquoi celui-ci?
Alors, je trouve que c'est un film très naturel, pas surjoué, pas au-delà de ce qu'on peut voir concrètement à domicile actuellement. C'est un film qui est sur plusieurs versants. Autant le côté, effectivement, dépassement de soi, le sport, etc. Avoir une vie normale aussi, malgré le handicap, cet adolescent, tout ce qu'il souhaite, c'est avoir... une vie classique et dépasser ses limites, mais aussi un autre versant qui est l'impact sur la vie de famille. Ce qu'on voit quotidiennement au domicile, c'est qu'au-delà d'une intervention pour une toilette, pour une prise de repas, pour un accompagnement extérieur, on est vraiment sur une famille qui est touchée par le handicap. Donc c'est vraiment tout l'entourage qui est touché par le handicap. Et au-delà de ça, c'est des interventions au domicile, mais avec vraiment la prise en compte de tous les membres de la famille.
Parce que, en fait, si on marque bien dans ce film, justement, il n'y a pas d'intervention à domicile par quelqu'un d'une structure. Il se débrouille tout seul, en fait, en famille.
Oui, alors c'est vrai qu'on intervient auprès de personnes qui ont fait appel tardivement à un service d'aide à domicile. Ce n'est pas facile, surtout quand là, c'est la maman, concrètement, qui s'occupe de son fils depuis tout petit. C'est une démarche qui n'est pas simple de faire appel à un service d'aide à domicile. Ça reste une intrusion, malgré tout, ça j'en suis persuadée. Malgré tout, parfois, on arrive dans des situations où la famille est à bout, où on est appelé en ressources pour pouvoir soulager les parents. On est vraiment dans l'épuisement de l'aidant. Là, effectivement, la maman gère depuis toujours. Concrètement, il n'y a pas cette notion d'aide extérieure qui, après, ça pose question. Est-ce qu'elle ne le souhaite pas? Est-ce que ça n'a pas été proposé? Est-ce que c'est un choix de famille ou pas? Mais on rencontre très régulièrement des personnes qui font appel à nous très tardivement pour justement ce côté épuisement et besoin aussi d'un nouveau souffle et d'une aide extérieure qui arrive à un moment donné de la vie.
Alors, les intervenants, les aides à domicile qui vont donc chez les gens, apparemment, vous les formez également à Vitalliance. Comment ça se passe?
Alors, en fonction des maladies, des types de dépendances qu'on rencontre, on se rapproche des grands réseaux de santé, comme là, ce soir était présent l'APF, également le réseau GCEP. Donc l'APF, l'Association des paralysés de France, donc le réseau GCEP, le réseau qui accompagne les patients souffrant d'une sclérose en plaques. Donc CEP, sclérose en plaques. Donc c'est deux exemples de partenaires avec qui on travaille au quotidien, c'est-à-dire qu'on est un service d'aide à domicile, on intervient à domicile, mais on n'est pas tout seul. Bien souvent, il y a des acteurs, des professionnels, des médecins, des infirmières, des réseaux, des associations, et on se rapproche justement de ces réseaux, de ces associations, à but de former nos intervenantes. Dans la mesure où elles interviennent chez des personnes fixes, elles rencontrent non pas 15 maladies, mais là où les mêmes pathologies, et donc c'est un réel accompagnement. Elles ne sont pas en intervention dispersée sur 3-4 pathologies. Elles accompagnent une ou deux personnes qui ont peut-être deux pathologies différentes, mais ce qui permet de pousser le côté formation et de les former aux pathologies qu'elles rencontrent.
Il y a plusieurs handicaps, évidemment. Vous intervenez aussi chez les personnes âgées, qui ne sont peut-être pas forcément handicapées, mais qui sont un peu dépendantes également. Est-ce qu'il y a un handicap qui est beaucoup plus lourd à gérer? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous sentez pas désarmé face à certains handicaps?
C'est parfois très technique. C'est vrai qu'on est sollicité dans le cadre du handicap lourd, donc des personnes effectivement qui sont tétraplégiques, des personnes qui sont trachéotomisées. Donc c'est des personnes pour qui l'intervention est bien plus complexe qu'un accompagnement extérieur à la vie sociale, qui forcément c'est pas du tout le même type d'accompagnement. Donc c'est vrai qu'on a différents types de professionnels et pas que des auxiliaires de vie sociale. Mais c'est vrai que quand on intervient dans des cadres plus techniques, avec vraiment des gestes de transfert, etc. à acquérir, on met en place des professionnels qui sont déjà formés et ensuite on accentue sur ce côté formation. Donc le côté formation est accentué, oui, certes, sur les pathologies, mais également sur tout ce qui est gestes et postures, transfert, quand on est vraiment sur des accompagnements très techniques au niveau gestes.
Après, il y a le côté aussi un petit peu peut-être pour les gens administratifs. On sait que c'est quand même très très dur de faire reconnaître certains handicaps au niveau de l'administration française. Je pense aux autistes, il y a pas mal de personnes qui luttent pour avoir des aides et qui ne trouvent pas de lieu, qui sont peut-être même parfois obligés de s'exiler en Belgique pour aller dans des écoles spécialisées. Est-ce que vous faites une aide aussi administrative, vous les conseillez?
Alors déjà, quand la personne personne nous contacte, première question, c'est est-ce que vos droits sont ouverts? Est-ce que vous connaissez vos droits? Est-ce que les dossiers ont été déposés à tel ou tel endroit? Bien souvent, oui. Parfois, non. Donc, c'est vrai que je suis assistante sociale de formation. Donc, c'est vrai que je peux orienter très facilement vers le bon partenaire, vers le bon interlocuteur, concrètement, pour d'abord ouvrir les droits. La MDPH, le Conseil Général. Donc, c'est vrai que c'est les deux partenaires essentiels pour les ouvertures de droits. Après, concernant votre question pour le type de handicap mental, c'est vrai qu'on est de plus en plus sollicité dans le cadre du handicap mental. Bien sûr, au départ, notre mission première, c'est le maintien à domicile pour les personnes en situation de handicap moteur. Mais de plus en plus, on a des demandes d'accompagnement pour des personnes qui ont une trisomie 21. Donc là, c'est une demande toute récente. Également, des personnes qui ont des troubles autistiques. Donc c'est vrai que c'est un type de handicap qui est reconnu, oui, mais pour qui on n'avouait pas forcément la nécessité de mettre en place une aide à domicile. L'aide, elle n'est pas forcément sur le lever, sur la toilette, etc. Elle est plus sur l'ouverture sur le monde, les activités manuelles, l'accompagnement éducatif, soulager les parents également. C'est vrai que ça permet aussi de soulager la famille en accompagnant la personne sur l'extérieur à des activités adaptées également, d'où la mise en place de professionnels comme des moniteurs éducateurs qui sont beaucoup plus à même au niveau formation et au niveau expérience d'accompagner, de proposer et d'intervenir de manière adéquate.
Il y a aussi évidemment les personnes qui sont en prison. Donc leur domicile, c'est un peu la prison. Ils sont handicapés lourdement. Parfois, les prisons ne sont pas adaptées. Est-ce que vous intervenez également là-bas ou vous connaissez un peu les dossiers? Comment ça se passe?
Je n'ai jamais été sollicitée. Après, j'allais dire, tout est possible. Enfin, c'est toute demande que je peux avoir assez atypique, c'est une question d'organisation, tout simplement. Donc, je n'ai pas encore rencontré ce type de situation. Après, j'allais dire, comme toute situation où c'est inconnu au départ, simplement, oui, pour moi, c'est possible. Il suffit après de s'organiser avec les différents interlocuteurs au sein de la prison, par exemple, voir est-ce que les droits sont ouverts, de quoi la personne a besoin, qu'est-ce qui n'est pas adapté. C'est une demande... comme une autre, j'allais dire, qu'on étudie au cas par cas et on répond vraiment sur mesure.
Pour pouvoir avoir des soins à domicile, ça a un coût. Peut-être qu'il y en a, ils n'ont pas forcément les moyens. Est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour ça?
Dès qu'un handicap est reconnu, donc auprès de la MDPH, l'intervention se fait dans le cadre d'un accordeur attribué par la MDPH. Quand il s'agit d'une personne vieillissante, c'est dans le cadre du Conseil Général, d'un dossier d'APA, donc allocation personnalisée d'autonomie. Quand on est dans le cadre du handicap, on est dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. Dans ces deux cadres-là, les heures sont attribuées donc soit par la MDPH, le Conseil Général, et pris en charge par ces organismes. Dans le cas d'une PCH, il n'y a aucun coût de la part de la personne. Tout est pris en charge. Donc c'est un financement direct via le financeur qui est le Conseil Général. Donc là, la personne fait une demande auprès de la MDPH, tout simplement. Une infirmière passe à domicile. Le dossier passe en commission auprès de la MDPH et on intervient après cette notification. Donc cette notification nous donne l'accord d'intervenir pour un nombre d'heures attribuées. La personne n'a aucun surcoût, que ce soit la nuit, le week-end, etc.
La MDPH, vous pouvez rappeler ce que c'est?
Alors, maison départementale des personnes handicapées.
J'imagine que vous avez des réunions et des débriefings avec les aides à domicile et les intervenants. J'imagine aussi qu'il y a des relations particulières qui s'installent entre les handicapés et les personnes qui s'occupent d'elles. Comment ça se passe? Ça se passe toujours bien, normalement? Ou est-ce que vous avez constaté des fois des petites failles que vous essayez de corriger?
C'est jamais tout rose, forcément. Il y a toujours des difficultés au quotidien. Dire que tout roule tout le temps, ce serait mentir. Concrètement, quand il y a des difficultés, les intervenantes et les personnes qu'on accompagne nous contactent. C'est vrai que dans un premier temps, la première visite à domicile, on fait un point global. On retourne à domicile tous les 6 mois. Donc ça permet d'une de faire un point sur l'équipe en place, sur le type d'accompagnement qu'on a mis en place dès le départ, est-ce qu'il y a des évolutions, est-ce qu'il y a des choses à changer, et d'autre part, les intervenants nous appellent régulièrement. Donc on peut faire un point par téléphone, mais également ça peut aboutir à une réunion d'équipe au domicile de la personne. Dès qu'on part sur une grosse difficulté où il y a besoin de refaire un point, systématiquement on propose une réunion d'équipe à domicile. Donc la personne est présente parce que ça la concerne quand même dans un premier temps, elle n'est pas exclue et on parle quand même de cette personne. Son équipe est présente et une personne de Vitalliance est présente. Donc soit le chargé de coordination qui accompagne la mission, et le but étant d'essayer d'apporter des solutions aux soucis qu'on peut rencontrer, aux difficultés qu'on peut avoir.
C'était un sujet autour du handicap dans le cadre d'un ciné-débat organisé par le Cinémovida d'Arras et proposé par l'agence Vitalliance d'Arras, une structure spécialisée dans l'accompagnement des personnes âgées et handicapées. Si vous désirez plus d'infos sur le fonctionnement de ces structures, un numéro de téléphone 03 21 71 91 61, une adresse mail caroline.rota@vitalliance.fr, un site internet www.vitalliance.fr.